France Musique. France Musique, bonjour à vous toutes et tous, et que cette fête de la victoire soit aussi la nôtre contre le virus. Et oui, nous sommes le 8 mai, dans une poignée de secondes, Jean-Baptiste Urbain et Musique Matin vous saluent.
Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Quand le rideau pourra-t-il se lever à nouveau à l'Opéra de Lyon? Serge Dorny, son directeur, ne peut évidemment pas répondre à cette question. Mais le théâtre imagine déjà des solutions et puis ses productions vivent toujours grâce au numérique. Serge Dorny est notre invité à 8h50. Décalé plutôt qu'annulé du concours Reine-Elisabeth au Corégie d'Orange, les grands rendez-vous musicaux misent sur l'avenir. Ce sera dans Classique Info avec Sophie Anastasio à 9h20. Et puis au programme également, à 8h30, Suzanne Gervais donne des idées aux artistes qui s'expriment en ce moment sur les réseaux sociaux. 8h20, la voix de France Musique du jour. Il y a de la joie ce matin avec Clément Rochefort. Il a choisi de nous faire écouter son chanteur préféré. Enfin, que voir ce week-end à défaut de sortir? Comme tous les vendredis, Guillaume Thion de Libération nous conseille un spectacle en ligne. Rendez-vous dans 10 minutes.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique. Toute la journée, on fête le génial Keith Jarrett.
Thank you.
Enregistré en 1987 dans l'état de New York, le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, ici le prélude et fugue en ut majeur du premier livre. Et c'était Keith Jarrett, le musicien américain, est né voilà 75 ans aujourd'hui, un certain 8 mai 1945, une date facile à se rappeler. France Musique se la rappelle justement, avec toute la journée et même tout le week-end, des émissions pour raconter cette légende vivante du jazz. Ça commence ce midi avec Jérémy Rousseau. Comme si vous y étiez, Jérémy évoquera le tempérament du musicien, son rapport parfois complexe au public, pouvant quitter la salle à cause de l'atout d'un spectateur ou du flash d'un smartphone. Et puis à 18h dans Open Jazz, Alex Dutille, lui, propose un portrait subjectivement assumé de Jarrett avec un inédit. Ça continuera avec Nathalie Piollet à 19h. Et puis tous les deux seront exceptionnellement de 20h à 22h30 pour la diffusion de deux concerts mythiques du pianiste en 1976 au Japon. Enfin, demain et dimanche à 18h, dans les légendes du jazz, Jérôme Badini a lui déniché un concert solo de 1979 à Juan les Pins. Après ça, on ne peut pas dire qu'on se fiche de vous sur France Musique. Keith Jarrett, en 1966, il forme son trio avec Charlie Haden à la contrebasse et Paul Mossian à la batterie. C'est en 1966 qu'il joue ici une composition de Jarrett, Margot, le prénom de sa femme d'alors. Thank you. Margot, une composition de Keith Jarrett, lui-même au piano avec Charlie Haden à la contrebasse, Paul Motion à la batterie. Journée et même week-end où Keith Jarrett est à l'honneur sur France Musique à l'occasion aujourd'hui même de ses 75 ans. Comme tous les vendredis, vous vous dites peut-être, et si ce week-end, pendant les 23 heures de la journée où je n'ai pas le droit de sortir, et si je regardais un spectacle sur Internet, bonne idée en ce moment, il y en a plein, oui, mais lequel ? Heureusement, Guillaume Thion du quotidien Libération est là. Et comme chaque semaine, il nous conseille une production qu'il a vue en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jean-Baptiste. Cette semaine, nous allons à Strasbourg pour un spectacle. Vous vous rappelez, c'est comme ça que je parlais. Cette semaine, nous allons à... Évidemment, nous n'allons plus nulle part. Nous ne voyageons plus que dans le temps. Le virus a consacré la primauté du temps sur l'espace. Bref, nous voyageons donc dans le temps à l'Opéra National du Rhin pour une Callisto mise en scène par Mariam Clément en 2017. Trois éléments remarquables pour cette nouvelle production d'un opéra baroque de Francesco Cavalli, ancien maestro di cappella de la basilique Saint-Marc de Venise. Le premier réside, on ne le répétera jamais assez, dans l'excellence de l'interprétation de la partition par les talents lyriques, une formation spécialisée dans l'inédit, comme se plaît à le décrire son chef Christophe Rousset. Alors sur instruments d'époque, accordage naturel, boyau la 415, son continuo fait des ravages et préférant le détail de la coloration à la puissance orchestrale, les talents passent en revue dans la fosse toutes les couleurs de l'amour, platonique, homosexuel et même bestial, contenu dans un livret qui montre aussi la tragédie épouvantable de Callisto, déflorée et punie. Car, on s'en souvient tous, la trame de cet opéra adapté des Métamorphoses d'Ovide décrit comment Jupiter s'est transformé en Diane pour séduire et s'unir par surprise à la Callisto, laquelle enceinte fut ensuite chassée par la vraie Diane, puis transformée en ours par la femme de Jupiter. Double peine pour une innocente. L'autre particularité de cette production réside dans son audace. Traditionnellement, et même chez des défricheurs comme René Jacobs, Jupiter est interprété par un homme et dissimule sa voix pour un résultat plutôt grotesque. Ce n'est pas chantable, c'est trop haut. De plus, cela fait de la Callisto une bécasse qui se laisse séduire par un homme déguisé en femme sans s'en rendre compte, nous expliquait Rousset à l'époque. Ici, le chef et la metteur en scène ont donc délibérément choisi de confier le rôle de Jupiter travesti à une femme, la mezzo Vivica Geno, abordant donc de front toutes les nuances de cette histoire qui ne transige ni avec le genre, ni avec l'homosexualité. Enfin, il est à souligner la joie que procure la présence de la soprano Elena Tsalagova, quelle que soit la production dans laquelle elle participe. Toujours épatante, sérieuse et impliquée dans ses rôles, au point qu'on en oublierait qu'elle est aussi extrêmement talentueuse. Elle brille comme une étoile de la grande ours dans cette production qui a tout de l'éclat d'une superbe constellation. À visionner donc, et à la semaine prochaine.
La voix d'Elena Tsalagova dans cet extrait de la Callisto de Cavalli avec les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Un spectacle de 2017 donné à l'Opéra National du Rhin et à voir en ligne sur YouTube par exemple ou via le site de l'Opéra. Alors ce week-end, vous pouvez regarder ce spectacle-là en ligne ou bien d'autres encore, mais vous pouvez aussi ressortir vos instruments si vous en jouez un et que vous l'avez toujours, ou inciter gentiment vos enfants à le faire, ou votre conjoint. Et pour vous aider, des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ont enregistré des tutoriels vraiment pratiques. Ils sont sur francemusique.fr. Vous pouvez par exemple jouer le canon de Pachelbel avec la violoniste Céline Planès, ou bien donner sa structure harmonique et rythmique à l'hymne à la joie, à la contrebasse. Les partitions apparaissent sur les vidéos. On peut aussi faire sonner les trompettes triomphales d'Aïda, si vous jouez de la trompette. En tout, il y a 12 tutoriels en ligne. C'est pour les enfants du réseau Orchestre à l'école, mais aussi pour tous les amateurs. En revanche, pour jouer la danse du sabre de Khatchatourian, il va quand même falloir s'y mettre un peu sérieusement. La danse du sabre du ballet guyanais d'Aram Khatchatourian, c'était l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Pavo Yervi. Comme tous les matins, voici notre rendez-vous avec une voix de France Musique qui nous propose une musique qui l'accompagne en ce moment. Aujourd'hui, c'est notre camarade Clément Rochefort.
Musique matin à la maison.
Salut les amis, je voulais vous dire que le confinement, c'est pour moi l'occasion d'écouter peut-être pas plus de musique qu'avant, mais différemment, parce que je suis moins submergé par l'actualité discographique. Alors j'en profite pour suivre un petit peu ce que font certains musiciens sur les réseaux sociaux. Il y en a qui rivalisent d'ingéniosité, comme le compositeur Benoît Menut et ses chants du confinement, hyper drôle. Je pense aussi au jeune violoncelliste du trio Elios, Raphaël Jouan, et qui fait des petites vidéos où il se réenregistre lui-même, où il joue la comédie. Enfin, c'est très très drôle, c'est bien foutu. Et puis j'en profite aussi pour réécouter mon chanteur préféré, Charles Trenet. Trenet pour moi, surtout dans cette période de parfois morose, c'est vraiment un rayon de soleil, un chant de liberté, de légèreté, d'insouciance, de poésie drôlatique du quotidien, un petit peu à l'après-Vert. J'adore, ça fait un bien fou. Et du coup, je me suis lancé dans son intégrale. Alors évidemment, c'est long parce qu'il a fait près de 1000 chansons. Et j'ai découvert dans son tout dernier disque, qui est en fait l'enregistrement de son dernier récital, Salle Pleyel à Paris en 99. C'est hyper émouvant parce qu'il chantait assis, il avait 86 ans. J'ai découvert la chanson Tempéramentale, qui parle d'une dame originale qui défrayait la chronique à Deauville avec ses extravagances, sa swing, un peu comme la musique d'un film muet du début du siècle. Vous savez, parfois j'ai l'impression d'être entouré de gens qui ils sont malheureux parce que ils prennent tout au sérieux, ils cherchent désespérément et avec beaucoup trop de sérieux le bonheur. Bah, j'ai envie de leur dire, au contraire, arrêtez de vous prendre au sérieux et laissez-vous aller à la fantaisie simple de la joie, comme chez Trenet, et vous verrez, la vie sera tellement plus belle. Alors voilà, tenez bon, souriez, je vous embrasse.
Eh bien voilà, je vais vous parler d'une dame extraordinaire, du reste, qui était très amie avec mon grand-père, le farceur, et elle était un peu farceuse aussi, parce qu'elle était, comme on disait à l'époque, tempéramentale. Elle faisait du scandale partout, et à Deauville, elle se baladait avec un tigre en laisse, comme ça, ça faisait bien, comme ça, elle appelait ça mon gros chat. Et puis ensuite, elle avait étonnamment qu'elle appelait mon gros loup, enfin c'était toute ménagerie. Et alors je vais vous la chanter, la tempéramentale, la voici, sur un rythme qui n'est pas de 1900. Elle était tempéramentale, elle faisait du tapage partout, toute sa vie n'était qu'un scandale, c'est fou ce qu'elle était tempéramentale. Elle vivait à l'occidental, libérée de bien des tabous. Elle était la femme d'un hibou jaloux, PDG multinational. Un jour, Vendengaine la peignit, et dans sa gaine, fou d'elle, il l'étreignit. C'était au temps du cinéma muet, plus proche de nous que celui de Bossuet. Elle hurla devant le tout Deauville, des centenaires là-bas redisent encore tranquille. Elle était tempéramentale. Elle faisait, monsieur, du tapage partout. Toute sa vie n'était qu'un scandale. C'est fou ce qu'elle était tempéramentale. Elle vivait à l'occidental, libérée de bien les tabous. Elle était la femme d'un hibou jaloux, PDG multinational. Et puis ce fut un grand banquier qui l'aima trop, bien que trop maquillé. Il lui offrit un grand collier de perles que lui volèrent une pie et une merle. Elle partit le soir pour Sumatra, laissant l'investiteur chantant comme Sinatra. Elle était tempéramentale, elle faisait du tapage partout. Toute sa vie n'était qu'un scandale, c'est fou ce qu'elle était tempéramentale. Elle vivait à l'occidental, libérée de bien des tabous. Elle était la femme d'un hibou jaloux, PDG multinational. C'est ici que s'arrête son histoire, car je n'ai plus hélas dans ma mémoire qu'une ombre rencontrée par Marcel Proust, qui je crois dans un bouquin lui dit « Allez, oust !» Depuis en moi, elle s'est réfugiée. Je la chante, elle y vit, bien nourrie et logée. Elle était tempéramentale, elle faisait du tapage partout. Toute sa vie n'était qu'un scandale, c'est fou ce qu'elle était tempéramentale. Elle vivait à l'occidental, libérée de bien des tabous. Elle était la femme d'un hibou jaloux, PDG multinational. Elle était tempéramentale, 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 tempéramentale.
Ultime récital de Charles Trenet en novembre 1999, salle Pleyel à Paris. Il avait 86 ans, un peu plus d'un an avant sa mort. Tempéramental, le choix ce matin de Clément Rochefort. Tous les lundis et mardis à 20h, c'est à ses côtés que vous assistez au grand concert diffusé par France Musique. Et puis Clément, on le retrouve aussi tous les samedis à 16h avec demain France Musique. Au jardin, c'est Clément le jardinier en compagnie demain, entre autres, d'Alain Baraton du Parc de Versailles et puis des musiciens qui ont la main verte, le claveciniste Bertrand Cuiller, par exemple, la mezzo Eva Zaïsik, le pianiste Hervé Billot, ou encore le mandoliniste Julien Martineau de Toulouse. Il parlera de ses plants de tomates, du basilic qu'il fait pousser et puis du marc de café dont il raffole. Il l'utilise à la fois comme engrais, comme insecticide naturel et puis il trempe, Julien Martineau, ses médiators dans une eau bouillante mélangée à du marc de café. C'est un truc de pêcheur, c'est ce qu'il nous avait dit il y a quelques semaines ici même. Julien Martineau, le voici non pas au râteau mais bien à la mandoline dans cette musique d'un compositeur totalement tombé dans l'oubli, c'est Domenico Caudioso. partition retrouvée récemment en Suède, celle du compositeur Domenico Caudioso. C'était le final de son concerto pour mandoline avec Julien Martineau et le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini. Merci d'écouter France Musique. Quand le rideau pourra-t-il à nouveau se lever à l'Opéra de Lyon? Nul ne le sait, mais son directeur Serge Dorny imagine des solutions. Il sera notre invité à 8h50. Symphonie pour la vie, c'est un disque enregistré le mois dernier en plein confinement. Un album de soutien aux soignants avec des artistes classiques. On en écoutera un extrait à 9h moins le quart. Et puis, dans 10 minutes, les concours internationaux aussi reportent leurs éditions prévues cette année. C'est au programme de Classique Info, Sophie Anastasio, dans 10 minutes. Mais pour l'heure, venez, on part chez Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne, alors le numérique est pour plusieurs longues semaines encore le seul biais par lequel les artistes et les compagnies maintiennent le lien avec leur public, mais comment être pertinent sur la durée, sur le terrain numérique? Vous nous présentez ce matin l'initiative d'une agence de communication.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Effectivement, on le sait, pas de concert en France pendant encore plusieurs semaines. Alors c'est une chance, depuis la mi-mars, les internautes peuvent compter sur la générosité de nombreux musiciens sur les réseaux sociaux et sur YouTube, même si ça ne remplace évidemment pas les concerts, les vrais. Mais ce n'est pas toujours facile pour les artistes, qu'il s'agisse d'un soliste, d'un quatuor ou d'un ensemble, de savoir comment bien communiquer, à quelle fréquence poster sur les réseaux, quel contenu privilégier, bref, de savoir s'adapter à ce nouveau type de relation avec le public, surtout quand on a peu de moyens. Je me suis dit que l'offre plutôt généreuse du collectif Overjoyed, qui est spécialisé en communication, allait sans doute en intéresser plus d'un. Ce collectif, il vous offre en ce moment des consultations solidaires, ça veut dire gratuites, de 30 minutes pour vous aider à trouver des solutions de communication en temps de crise. Une demi-heure, c'est court, mais ça permet de poser quelques bases. L'idée, c'est de permettre aux musiciens de proposer des contenus pertinents, des vidéos, des petits enregistrements, et surtout de les aider à les mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Alors je tiens quand même à insister sur le fait qu'il n'y a évidemment pas d'injonction à être présent en ligne tout le temps, tous les jours. Pour certains musiciens qui sont habitués à un rythme de concert très soutenu, poster des vidéos où ils jouent chez eux donne du sens à leur journée et répond même à un besoin presque vital de se produire. Pour d'autres, c'est aussi stratégique. Disons-le, c'est une manière de se positionner pour la fin de la crise. C'est un outil de promotion personnelle. Et enfin, d'autres musiciens font sciemment le choix de se tenir un petit peu à l'écart des réseaux sociaux, de prendre du recul et de ne pas embouteiller la toile avec des vidéos de concerts à la maison supplémentaires. L'un n'empêche peut-être pas l'autre et après tout, tout est question de dosage. En tout cas, pour ceux qui seraient preneurs de conseils, pensez donc à l'offre du collectif Overjoyed.
Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est à retrouver sur francemusique.fr. À lundi, Suzanne. Alors, ils sont eux sur les réseaux sociaux et sur le site de France Musique, les artistes qui participent à nos séries La Ronde des Musiciens et Jamais Seul avec France Musique. Ils jouent en vidéo. C'est encore jusqu'à dimanche. Ce soir, vous pourrez par exemple découvrir la vidéo réalisée par le trompettiste Romain Leleu et son sextet dans la musique de Carlos Jobim. Romain Leleu, le voici ce matin. Il joue Joseph Haydn.
Thank you.
Joseph Haydn, le premier mouvement du concerto en mi bémol majeur avec l'orchestre de chambre balte de Saint-Pétersbourg dirigé par Emmanuel Leduc Barome et c'était Romain Leleu à la trompette. C'est comme un vaisseau d'art dans un océan de verdure. La Fondation Vuitton, au cœur du Bois de Boulogne, a su, en 4 ans seulement, à peine, s'imposer comme lieu d'exposition et puis aussi comme lieu de concert, avec un auditorium très agréable, tout en baie vitrée. Vous pouvez le découvrir ce soir sur le site de la Fondation, dans un concert hommage à Arvo Pärt, hommage au grand compositeur estonien vivant, par le violoniste et chef letton Gidon Kremer et sa Kremerata Baltica. Les voici dans une berceuse estonienne avec le chœur de l'école de chant de Vilnius. Voilà une fin étonnante pour cette berceuse étonienne d'Arvo Pärt pour chœur de filles et cordes. C'était le chœur de l'école de chant de Vilnius et la Kremerata Baltica dirigée par Gidon Kremer à retrouver ce soir pour un concert Arvo Pärt sur le site de la Fondation Vuitton. Kremer d'ailleurs qui a aussi enregistré Arvo Pärt avec Keith Jarrett au piano, figurez-vous, si vous n'étiez pas là il y a une demi-heure. Keith Jarrett, il a aujourd'hui 75 ans et on le fête toute la journée, tout le week-end sur France Musique à midi de 18h à 22h30 et puis concert inédit donné à Jean Lépin demain et dimanche à 18h dans les légendes du jazz de Jérôme Badidi. Allez, il est l'heure de prendre des nouvelles du monde musical, c'est Classique Info. Avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Le concours Reine Elisabeth en Belgique reporte son édition 2020 consacrée au piano à l'année prochaine. Toutes les sessions suivantes sont ainsi décalées d'une année. Le concours de violoncelle prévu en 2021 aura lieu en 2022. Le concours de chant en 2023 et celui de violon en 2024. L'âge limite des candidats sera également relevé d'un an. La Biennale de la danse de Lyon prévue du 11 septembre au 2 octobre est également repoussée au printemps 2021. Même chose pour Opéra en plein air qui décale à l'été 2021 sa production de Madame Butterfly. Les Corrigés d'Orange, dont l'édition 2020 a également été annulée, ont dévoilé les noms des spectacles reportés à l'année prochaine. Il s'agit du concert de Nemanja Radulovic et Double Sens, Samson et Dalila, le Ballet for Life du Béjar Ballet Lausanne et le concert de Cecilia Bartoli avec les musiciens du Prince Monaco. En Angleterre, c'est le festival de Glyndebourne qui tire un trait sur son édition 2020. Un festival numérique avec la diffusion d'anciennes productions est prévu, ainsi qu'un pique-nique virtuel pour faire perdurer la tradition. Et face à une perspective de réouverture toujours plus incertaine en septembre, le Metropolitan Opera de New York annonce avoir mis 41 membres de son personnel administratif en congé temporaire pour une durée indéterminée. 11 autres vont passer en temps partiel. L'équipe administrative du Met compte 237 personnes au total. La disparition de Florian Schneider, cofondateur du groupe Kraftwerk, a suscité de très nombreux hommages. Il est mort à l'âge de 73 ans. Qui d'autre, pendant les années 70, peut prétendre avoir incarné à ce niveau de précision l'esprit novateur de son temps, interroge Olivier Lam dans Libération. Également dans l'actualité, c'est le compositeur américain Anthony Davis qui a remporté le prix Pulitzer de la musique pour son opéra The Central Park Five, créé en juin 2019 en Californie. Et pour terminer, on se projette un peu avec la création mondiale du prochain opéra de Philip Glass, Circus Days and Nights, inspiré des poèmes de Robert Lax. Elle aura lieu le 29 mai 2021 à l'Opéra de Malmö en Suède.
Classique Info, Sophie Anastasio, qu'on retrouve aussi sur francemusique.fr. À lundi, Sophia. Alors le disque du jour est peut-être le seul disque enregistré depuis le début du confinement. Symphonie pour la vie, c'est son titre. C'est un album de soutien aux soignants. Il a été enregistré en avril en respectant les gestes barrières. Les uns après les autres, les artistes classiques se sont succédés bénévolement dans les studios de la scène musicale. Un album qui va d'Offenbach à Gabriel Fauré, où l'on croise Philippe Jarouski, Karine Dehay, et puis beaucoup d'instrumentistes. Ces instrumentistes, ils sont d'ailleurs tous rassemblés sur la dernière plage de ce disque, dont les fonds seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Parmi eux, le violoniste Nemanja Radulovic, les violoncellistes Gauthier Capuçon et Edgar Moreau, ou encore les pianistes Alexandre Tarot, Bertrand Chamaillou et Franck Bralet. C'est Yvan Cassard qui signe l'arrangement sur la dernière plage de ce disque, donc de La Quête de Jacques Brel.
Thank you.
Rêver d'un impossible rêve, la quête, Jacques Brel avec des artistes classiques parmi lesquels Nemanja Radulovic, Alexandre Tarot, Bertrand Chamaillou ou encore Edgar Moreau et Gauthier Capuçon. C'est un album qui a été enregistré pendant le confinement le mois dernier et qui sort aujourd'hui en numérique et dont les fonds seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Merci d'écouter France Musique. Il est l'heure de rejoindre notre invité.
Musique Matin à la maison, France Musique.
Et direction Lyon, ce matin, nous retrouvons Serge Dorny. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'Opéra National de Lyon. Après 17 années, je crois, de bons et loyaux services, une dernière saison l'année prochaine. Vous partez ensuite à Munich, à l'Opéra d'État de Bavière. J'ai beaucoup de questions, bien sûr, Serge Dorny. D'abord, la plus simple et peut-être la plus difficile. Est-ce que vous avez la moindre idée d'une possible reprise des spectacles à l'Opéra National de Lyon?
Eh bien, là, la question, non, je n'en ai pas. Si j'en avais une, ce serait facile à prévoir l'avenir. Donc, effectivement, nous avons arrêté le 13 mars après avoir préparé trois spectacles qui n'ont pas vu le jour, ont eu respectivement des générales, mais pas de première. Donc, quant à la reprise, on est totalement dans l'inconnu.
Plusieurs scénarios, vous travaillez sur plusieurs scénarios?
J'ai fait le pari, de commencer la saison 2020-2021 telle qu'annoncée à partir du 2 novembre 2020. Et j'ai construit un programme alternatif pour les mois de septembre-octobre en respectant évidemment les mesures sanitaires imposées et nécessaires pour la partie publique et la partie scénique. Il est important de redonner confiance aussi à notre public pour retrouver le chemin vers les salles de spectacle. Et donc, concrètement, cela veut dire que sur scène, nous privilégierons un programme de danse avec des solos pour les différents danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon, des concerts de musique de chambre, des récitals, et aussi avec un programme d'opéra avec une forme adaptée, donc petite forme, enfin petit orchestre ou une orchestration adaptée pour l'occasion, pas de chœur. Ce sera l'heure espagnole de Ravel. On le présentera sur scène. Et par ailleurs, évidemment, l'activité de septembre-octobre, mettre en avant l'action culturelle de l'Opéra de Lyon. Je pense que c'est important d'être présent dans la cité, d'être acteur citoyen. Et en parallèle, nous allons développer à partir de ce mois une scène numérique qui permettra d'être présent différemment.
On va y revenir dans un instant à cette scène numérique. Ces productions, il y en avait beaucoup qui ont été annulées ce printemps jusqu'en juin. Une création mondiale de Thierry Esquech, des Noces de Figaro mises en scène par Olivier Assayas en juin. Ces productions, est-ce qu'elles verront le jour un jour? Est-ce qu'elles sont reportées ou tout bonnement annulées?
Mais non, il faut espérer tout d'abord qu'ils verront le jour. Et justement, en concertation avec mon successeur Richard Brunel, nous nous sommes mis d'accord qu'ils allaient être reproposés dans la saison 2021-2022 pour la plupart. C'est le cas effectivement pour Irlo de Frecker, c'est le cas également pour Rigoletto ou encore pour Chérine. Les productions sont reportées, mais ils verront le jour.
Des artistes, des productions annulées qui parfois ont travaillé des mois pour préparer un rôle, est-ce qu'ils ont droit à quelque chose financièrement?
Nous avons essayé d'établir des rémunérations équitables pour l'ensemble des artistes et techniciens, d'ailleurs parfois recourant au chômage partiel.
Du point de vue financier, vous avez déjà une idée de ce que cela représente pour votre institution, l'Opéra National de Lyon, Serge Dorny?
La visibilité financière est assez compliquée puisque la crise que nous traversons n'est pas définie dans le temps. La date et les conditions de reprise sont incertaines. Tout ce que l'on sait, c'était raté le 13. Et la question est, est-ce que nous commencerons en septembre, octobre ou en janvier ou quand? Donc c'est difficile de mesurer aujourd'hui le coût financier. Ce qui est important, c'est quand même de veiller et d'être attentif à la santé financière de nos institutions pour pouvoir continuer aussi à investir dans l'avenir. Donc c'est difficile de dire aujourd'hui, la facture est telle ou telle. La durée nous permettra d'évaluer exactement quel est le vrai coût de cette crise.
Serge Dorny, en plus de 15 ans, vous êtes parvenu à créer un nouveau public à l'Opéra de Lyon, plus jeune. Ces spectateurs, les spectateurs de l'Opéra de Lyon, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez des échanges avec eux?
On a des échanges via les réseaux sociaux. Évidemment, je veux dire, tout d'abord, une énorme solidarité, je constate, solidarité que je remarque quand nous avons remboursé l'ensemble de la billetterie qui avait été vendue et les spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu. Certains de nos spectateurs, d'ailleurs, ont fait don de ce billet non consommé. Donc, il y a aussi des remerciements par rapport à des propositions, des formats qu'on a pu mettre sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'avec France Télévisions, avec Arte, nous avons développé une espèce de continuité, je veux dire, en présentant des productions enregistrées par le passé que nous avons retransmis afin de quand même garder un lien. Et donc là aussi, il y a un retour positif de la part de nos spectateurs. Voilà, c'est le seul retour que nous avons. Mais je pense que beaucoup sont évidemment dans l'attente d'une reprise. Mais cependant, il faudra quand même aussi donner confiance, redonner confiance quelque part à l'utilisateur, à notre public, pour revenir vers les salles, rentrer dans la salle, tout en sachant qu'aujourd'hui, le vrai remède n'existe pas encore. Donc, je pense qu'il faudra du temps. Et aussi, dès lors, il faut que nous nous adaptons quelque part dans les formats que nous proposerons afin d'aider à la construction de cette confiance.
Cette présence numérique de l'Opéra de Lyon, Serge Dorny, pour finir, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, du ballet, une flûte enchantée, depuis hier le Contori dans sa mise en scène de Laurent Pelli. On va écouter un extrait du Contori dans un instant. Pour vous, c'est une parenthèse ou est-ce que ça vous fait prendre conscience aussi et à tout le monde lyrique, pour tous ceux qui ne vont pas à l'Opéra parce que c'est trop cher, parce que c'est trop loin, ils ont aussi le droit de voir ces spectacles et pas seulement en période de pandémie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de prise de conscience en ce moment?
Ouais, tout d'abord, je voudrais quand même dire que vous contredire que l'accès à l'Opéra de Lyon est relativement financièrement abordable. Quand on le compare à des concerts de pop ou à des événements sportifs, aller à l'Opéra, on peut y aller à partir de 5 euros. Donc, je veux dire, la contrainte n'est pas une contrainte financière. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, je veux dire, le public de l'Opéra de Lyon est un public relativement jeune, 25% à moins de 25 ans, 52% à moins de 45 ans. Donc, c'est un public qui est divers et varié. Mais il est vrai que jusqu'à présent, l'Opéra de Lyon n'a pas su investir dans le numérique et pour nous, cette plateforme numérique n'a pas été une priorité. Donc, il est vrai que cette crise que nous traversons nous permet, nous oblige d'ailleurs et nous permet d'y réfléchir et d'avancer. Donc, c'est vrai que c'est une autre façon d'être présent auprès des publics et des publics aussi là par le monde, au-delà du département du Rhône, au-delà de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc maintenant, il faut construire, je pense, il faut essayer aussi de trouver les formats et les contenus adaptés. Je pense qu'il faut en faire une expérience différente de ce qu'on peut voir sur la scène. Il ne faudrait pas que ce soit une copie exact de ce que la scène propose. Et c'est là l'enjeu, je pense aussi, c'est pas simplement transférer de ce qu'on peut voir sur scène sur une plateforme numérique. On voit que d'ailleurs, cela a ses limites. Je parle du Metropolitan, on voit qu'ils l'ont fait dans les salles de cinéma avec un succès, certes, mais aussi avec un public qui peu à peu a fui la salle. Donc je pense qu'il faut une intelligence à développer des contenus qui correspondent à ce que ces plateformes numériques permettent.
Merci beaucoup Serge Dorny.
Merci à vous.
Directeur général de l'Opéra National de Lyon. Je vous propose qu'on se quitte avec cet orchestre de l'Opéra de Lyon, avec le Contori qu'on peut voir depuis hier dans sa mise en scène de Laurent Pelli. Ici c'est John Elliott Gardiner qui dirige l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Merci beaucoup.
Merci.
Écoutez ces chants de victoire, le final du Contori de Rossini, chant de victoire en ce 8 mai. C'était l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par John Elliott Gardiner. Voilà, c'est la fin de Musique Matin à la maison. Loïc Duros était à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, Max Dozom avec Marjolaine Porti-Kaltenbach, Taïtia Froidure et Margot Müller à la coordination. Dans un instant, en piste, Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmy avec le nouveau disque de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Très bonne journée sur France Musique et à lundi.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.